Fred, tu fais partie de Terre Vivante en Cévennes et vous organisez ce samedi la venue de Célia Izoard pour la présentation de son livre La Rue Minière au XXIe siècle. Bonjour Fred.
Bonjour.
Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est Terre Vivante en Cévennes ?
Alors, Terre Vivante en Cévennes, c'est un collectif qui s'est créé il y a environ 2 ans et demi aux abords de Saint-Jean-du-Gard, Toiras, Anduze, Alès, et qui s'intéresse à pas mal de questions, et notamment l'aide à l'installation paysanne, la défense des terres agricoles, les luttes contre tous les projets destructeurs qui fleurissent partout sur le territoire. Et aussi, de manière plus large, on s'intéresse à comment réfléchir à des possibles qui dépasseraient la situation dans laquelle le capitalisme nous a mis. Donc c'est des objectifs assez larges, mais qui restent ancrés vraiment dans le local, quoi.
Et comment vous est venue cette envie d'inviter Célia Izoard, qui s'intéresse aux questions minières ?
Alors déjà on était plusieurs à avoir lu son ouvrage quand il est sorti il y a un an environ, qui nous a vraiment intéressés. Et il se trouve aussi qu'à cette période, la soirée est organisée aussi avec la Dame VM, qui est l'association de dépollution des anciennes mines de la vieille montagne, qui se situe à Saint-Félix-de-Palière. Qui lutte depuis des années pour la dépollution du site. Du site minier. Donc à cette époque-là, il venait de remporter un procès pour que la société gérante de ces mines puisse dépolluer justement le site. Donc c'était l'entreprise belge Umicore qui gérait ça. Donc du coup, on avait trouvé intéressant de pouvoir mettre un petit peu les questions du local avec de la question minière avec l'ouvrage de Célia qui révèle aussi pas mal de questions plus larges, quoi.
Est-ce que tu pourrais nous faire un petit point sur la situation de Saint-Félix ?
Saint-Félix, c'était une ancienne mine dont l'exploitation s'est arrêtée, je crois, dans les années 70, au début des années 70, qui a donc pollué en fait tous les cours d'eau, tous les alentours, et qui a donc mis en la santé des habitants en jeu, quoi, pendant plus de 50 ans. Donc là en ce moment je crois qu'il y a les premiers travaux de dépollution qui sont entamés, mais ça il faudrait demander peut-être confirmation à la Dame VM. Et donc du coup ça questionne quand même pas mal de voir que plus de 50 ans après, les sites un site minier reste toujours dans des situations écologiques désastreuses, quoi. D'autant qu'on a vu là récemment. On a reçu un appel, un avis d'enquête du BRGM, qui est l'organisme d'État qui s'occupe des ressources minières et géologiques, qui lance un grand programme national pour sonder le sous-sol, c'est-à-dire pour voir où il pourrait éventuellement trouver d'autres métaux à forer. Donc on voit qu'il y a 5 grandes zones qui sont dessinées. Dont une zone qui englobe les Cévennes avec les Pyrénées. Donc même si des travaux ne sont pas envisagés pour le moment, on peut s'attendre à ce que des travaux miniers puissent revoir le jour, pourquoi pas ici, ou en tout cas dans pas mal de d'endroits en France, quoi.
Oui, on sait déjà qu'il y a une mine qui va s'installer dans l'Allier, notamment.
Ouais, voilà, exactement, ouais.
Voilà.
Ouais, c'est ça, ouais. Avec toutes les conséquences que ça a au niveau local, hein. Donc évidemment la pollution des terres et des eaux, l'accaparement de l'eau, parce que l'extraction minière est une énergie, c'est vraiment
très gourmand en eau.
C'est très gourmand en eau, donc du coup forcément on pourrait imaginer maintenant au jour actuel dans les Cévennes déjà qu'il y a une zone qui sera de plus en plus soumise à la pression de l'eau, quoi. Enfin, donc comment se répartit la ressource, en fait, c'est une question qui est déjà assez préoccupante là-dessus. Et de manière plus large, on peut s'interroger aussi au pourquoi cette relance minière, en fait, pourquoi ce besoin de matériaux. Donc ça c'est le thème que Célia aborde dans son livre, hein. C'est que la transition écologique en fait sert d'alibi en fait pour relancer tout ce secteur. Mais bon, on voit évidemment que c'est que ça marche pas et c'est un moyen de relancer, de continuer le productivisme et de continuer la consommation et les nouvelles technologies qui sont dites dématérialisées, mais qui en fait sont catastrophiques au niveau du pillage des ressources, quoi.
Et tout ça en dépit de considérations écologiques et en utilisant l'argument de la décarbonation.
Oui, c'est ça. On essaye de soigner un problème en se servant d'un autre, quoi. C'est complètement aberrant. Et évidemment, c'est toujours sans l'avis des populations locales, sans un questionnement plus large sur la gestion des usages, en fait. C'est-à-dire qu'on l'a vu, par exemple, pour toutes ces questions de méga-bassines, en fait, ces projets-là vont servir à quelques personnes, mais où est le bien commun là-dedans? En fait, c'est la question qui se pose, quoi. Les populations ne sont jamais concertées et ne peuvent pas être partie prenante, même quand il y a des oppositions fortes, on ne les écoute pas, quoi.
On va revenir dans le vif du sujet. Comment ça va se passer samedi, le lieu, comment les horaires, un petit peu tout ça?
Alors du coup, ça se passe à Anduze, à l'espace Pellico, à la salle voûtée. Donc c'est en plein centre d'Anduze, ce sera fléché. On va commencer par la présentation de Célia autour de son livre. Il y aura un moment d'échange avec le public. Et ensuite, il y aura un petit buffet qui est préparé par une équipe notre équipe de cantine de lutte, on appelle ça, et qui fera un petit repas à prix libre ensuite pour permettre de discuter un petit peu plus, de manière plus informelle, quoi. Donc ça commence à 18h ce samedi.
D'accord, et ben je te remercie Fred, et puis dans un instant on va parler avec Célia qui va nous expliquer un petit peu l'étude et les recherches qu'elle a fait sur les mines. Merci beaucoup Fred.
Ok, merci Julie, à bientôt.
Bonjour Célia.
Bonjour.
Tu viens samedi à Anduze présenter La ruée minière au XXIe siècle, enquête sur les métaux à l'ère de la transition. Donc un ouvrage qui est sorti l'année dernière et qui fait un point sur la transition et les projets miniers qui s'annoncent. L'idée, c'est quand même de déconstruire un mythe, celui du mythe écologique de la transition.
Alors oui, ce livre est une forme de fresque un peu historique qui nous amène à comprendre comment on en est arrivé au concept, je dirais même à l'idéologie de la transition, telle qu'elle a été adoptée par les élites presque du monde entier. Qui est fondée en fait sur une contradiction majeure. Et cette contradiction, c'est pour sauver la planète, il faudrait en fait miser massivement sur l'industrie minière. Aujourd'hui, d'un bout à l'autre du globe, il y a des centaines de projets miniers qui sont lancés avec la justification de faire baisser les émissions carbone. Et alors... C'est l'énormité qui est aujourd'hui vendue comme projet politique. Hein. C'est le projet politique majeur aujourd'hui. La justification, qu'est-ce que c'est? C'est il faut des métaux pour construire du photovoltaïque, des éoliennes pour alimenter la filière batterie et les véhicules électriques. Donc, ça va faire baisser les émissions carbone. Et alors, ça m'a amené depuis des années à m'intéresser au secteur minier et à regarder comment il fonctionne réellement. Évidemment, le secteur minier est en fait une cause majeure de réchauffement climatique. Les mines réchauffent très activement le climat. Ce projet-là ne fonctionne pas. Et là, quand je disais je fais une fresque historique, c'est-à-dire que j'essaie de comprendre dans quelle mesure finalement le système capitaliste depuis le début est fondé sur la mine. L'extractivisme, c'est vraiment la matrice, c'est ce qui structure ce système économique dans lequel on vit. Et c'est pas un hasard si au moment où ce système est le plus en crise, au moment où on est confronté à vraiment des menaces d'effondrement écologique de premier ordre, et bien finalement, les élites du capitalisme en reviennent aux fondamentaux. Tiens, pour sauver la planète, on va faire de la mine. Bah oui, la mine, c'est finalement une sorte de fétiche.
Dans un résumé du livre, il est dit qu'avec les projets actuels, par rapport aux batteries, par rapport aux photovoltaïques, à tous les besoins, entre guillemets, qu'on aurait, en fait, il faudrait produire en 20 ans autant de métaux qu'on a extraits au cours de toute l'histoire de l'humanité.
Ah oui, tout à fait. En fait, c'est documenté. Hein. Dès qu'on s'amuse à calculer ce que ça voudrait dire en termes de métaux, l'électrification du système énergétique aujourd'hui, c'est ça, voire c'est plus. Ça a été calculé par plusieurs institutions, par exemple l'Institut géologique de Finlande, qui a beaucoup travaillé là-dessus. Oui, c'est un gouffre, plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'années de production, par exemple de lithium ou de cobalt, pour alimenter ne serait-ce que l'électrification des véhicules. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais d'une contradiction majeure de la transition, c'est-à-dire que le projet n'est pas rationnel, le projet ne fonctionne pas. Il n'y a aucune chance de réussir à enrayer le réchauffement climatique en faisant de la mine, en électrifiant le système énergétique, ça ne peut pas marcher. Donc c'est un projet qui tient de la croyance, beaucoup plus que de l'ingénierie, de la croyance, et d'une manière plus cynique aussi, qui relève de la promesse. C'est-à-dire qu'en continuant à faire fonctionner l'économie sous le régime de la promesse, finalement, les dirigeants parviennent à maintenir le statu quo, à permettre que ce qui se fait continue à se faire.
C'est que l'extraction elle-même demande énormément d'énergie.
Ben voilà, l'extraction, c'est l'un des secteurs les plus énergivores aujourd'hui, de tous les secteurs, mais c'est assez logique, puisque quand on dit extraire des métaux, on extrait du cuivre, on extrait de l'argent, mais ça c'est... En fait, c'est un raccourci de langage. Mais évidemment, on n'extrait pas du cuivre, on n'extrait pas des métaux, on extrait des centaines de milliers de tonnes de roches dans une grande mine, hein, par exemple, chaque jour, et dont quelques grammes vont en fait pouvoir créer du cuivre au terme de procédés industriels qui sont nombreux, et de passage dans plusieurs usines, une usine de concentration du minerai, puis une fonderie, puis une usine d'électrolyse. Voilà, c'est très très long d'obtenir des métaux. Et ça aussi, c'est un paradoxe, c'est-à-dire qu'on est dans un monde dans lequel on consomme des métaux comme un consommable, c'est-à-dire comme quelque chose qui pourrait toujours être renouvelé. Et même quand on s'intéresse au recyclage, on s'aperçoit que c'est... En fait, rien dans ce monde et dans notre rapport aux objets ne permet vraiment le recyclage. Donc, regardez ça, regardez ce secteur-là, cette filière-là, ça veut dire, en fait, rien moins que changer notre rapport à la technique.
Il y a aussi toute la question de l'eau, notamment.
Alors,
la pollution des sols et l'utilisation de l'eau, puisque les mines peuvent être très gourmandes en eau.
Les mines sont toujours très gourmandes en eau, ne serait-ce que pour le broyage qui nécessite énormément d'eau. Et les mines perturbent toujours les réseaux d'eau souterraine, puisqu'il faut pomper toute l'eau qui est en sous-sol pour pouvoir exploiter le gisement. Donc une mine, c'est toujours une très très mauvaise nouvelle pour la ressource en eau. Et là, ben, évidemment, c'est un véritable mur, hein. Le fait qu'il y ait des projets pour démultiplier par 5, 10 l'extraction minière dans le monde, c'est la pire catastrophe qu'on puisse imaginer, puisque, en fait, les deux tiers des mines dans le monde sont situées sur des zones qui sont menacées de sécheresse. Donc c'est promettre des conflits d'usage extrêmement violents entre les populations, les communautés qui vivent là, et l'extraction minière. Et ces conflits, ils ont bien sûr commencé. Hein. Je pourrais vous parler du Maroc, où l'extraction minière assèche des régions qui sont déjà semi-désertiques, ou du Chili, où les mines accélèrent la fonte des glaciers, tout en augmentant très 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 sérieusement la sécheresse.
Et si on on parle plus précisément de la France, parce que, comme tu le disais, ces projets, c'est partout dans le monde. Mais en France, on voit que depuis quelque temps, eh bien, il y a un intérêt à nouveau pour faire des mines. On le voit notamment dans l'Allier. Et le BRGM a commandé des études de sous-sol assez récemment. Est-ce que tu peux nous en dire quelque chose ?
Oui, alors, si on parle de la France, en fait, soyons sérieux, la France est un pays minier par ses colonies. Hein, la Guyane, c'est une région aurifère. Hein, la Guyane a été conquise pour l'or, à la base, au 15e siècle déjà. Et donc, et on y extrait toujours beaucoup d'or. Et puis, la Nouvelle-Calédonie, c'est aussi une conquête, bien plus tard, là, pour le coup, pour le nickel. Hein.
Le nickel, oui, tout à fait.
Donc, quand on dit la France, en fait, ce qu'on veut dire, là, je pense, dans votre question, c'est la France métropolitaine.
Oui,
où,
oui,
c'est... Il n'y a plus réellement de mines.
C'est vrai.
Il n'y a plus réellement de mines depuis le début des années 2000, parce que, en fait, la France métropolitaine était une région minière, elle a été très, très exploitée. Il y avait 247 mines d'uranium dans l'Hexagone. On a du mal à se le représenter. Il y avait évidemment des mines de plomb, de zinc, comme les habitants de la région de Saint-Félix-de-Talières le savent. Et donc aujourd'hui, effectivement, le gouvernement a envoyé des signaux aux investisseurs miniers pour lancer de nouveaux projets en Hexagone. Alors c'est intéressant parce que finalement, c'est la relance de projets qui avait émergé en 2012, quand il y avait un premier plan de relance minière en France, porté par Arnaud Montebourg. À l'époque, les mines, c'était vraiment lancé, les projets miniers en France, c'était lancé vraiment avec la justification de créer de l'emploi et faire de la France un grand pays minier, le développement et la richesse. Aujourd'hui, les mêmes projets miniers reviennent, mais sous la bannière de la transition. C'est des projets qui sont censés accélérer la lutte contre le réchauffement climatique. Et alors, qu'est-ce que c'est ces projets ? Il y a effectivement des projets pour le lithium, avec par exemple un gros projet dans le Massif central, à Échassières, en Allier, pour lequel l'enquête publique va commencer dans une semaine. Donc du lithium. Et là encore, la question c'est vraiment, mais pourquoi faire ce lithium ? Par exemple, puisqu'on sait que si c'est pour faire des batteries de véhicules électriques d'une tonne 5 ou de 2 tonnes, c'est du réchauffement climatique pur. Il n'y a aucun gain pour le climat. C'est en partie ce que font valoir les personnes qui s'y opposent localement, ainsi que évidemment les problèmes de pollution et les problèmes d'eau que ça a posé. De la part des habitants de la région qui m'invite, je pense que c'est une occasion de repenser les anciens sites miniers de la région de Saint-Félix-de-Palière, de les replacer en fait dans une histoire mondiale de la mine, de les repenser aussi dans le temps et à la lumière des enjeux actuels. Il y a ça, et puis il y a de toute façon un voyage dans notre monde matériel, hein, puisque notre civilisation est fondée sur la mine, et pourtant tout se passe comme si c'était une sorte de tabou, quelque chose dont on ne parle jamais et qu'on mesure à peine.
Jusque-là, on avait l'impression, quand on parlait par exemple de l'extraction des terres rares, on disait oui, ça peut être terrible, mais c'est en Mongolie, et le fait que ça se rapproche, peut-être que ça peut interpeller un peu plus les gens sur la réalité de l'extraction minière.
Oui, enfin, en tout cas, pour ce qui est des Cévennes et de plusieurs régions dans le sud de la France, l'extraction, elle est quand même connue. Enfin, il y a des conséquences, elles sont là, l'histoire, les gens l'ont vécu. Mais ce qui est important, c'est de comprendre qu'il n'y a pas de rupture majeure entre l'extraction du 19e et du 20e siècle et l'extraction du 21e siècle. Enfin, en tout cas, la soirée sera l'occasion de discuter de ces différences et du continuum entre ces pratiques.
Merci beaucoup. Et puis, on encourage tous nos auditeurs à assister à cette soirée qui s'annonce passionnante.